Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous allons poursuivre nos circonvolutions littorales dans les eaux troublées de la Sharksploitation. Le dernier épisode était un peu spécial puisque nous avons fait un hors-série avec Sofiane de Bondspinning autour des requins dans la saga James Bond. Là, nous allons revenir à notre formule habituelle. 20e épisode, ce qui veut dire qu'avec les deux que nous avons traités aujourd'hui, nous sommes à 40 films. Et quand je regarde ma boîte à requins, je vois qu'il m'en reste à peu près autant. Oui, parce que j'en ai retrouvé plein d'autres depuis que j'ai commencé cette émission. Alors plutôt que de refaire mon sempiternel laïus sur la méthode de comptage des qualités squalographiques des films, eh bien j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur le classement en nous appuyant bien entendu sur la fiche Sens Critique tenue par Quentin, qui fait toujours un excellent travail de remise en forme des films que nous traitons ici. Alors, en numéro 1, ex aequo, et les deux seuls films incontournables, eh bien, deux longs métrages complètement différents, puisque nous avons d'un côté Peur Bleue, à ses ennemis, série B décomplexée, aux côtés d'Open Waters, en eau profonde, qui est là davantage un petit film d'angoisse expérimentale à faible budget quasi amateur. En troisième, 47 Meters Down. En quatrième, The Reef, deux films qui essaient de jouer plutôt dans l'angoisse avec un budget confortable. En cinquième, Bates 3D. En sixième, on attaque les téléfilms de Vidéo Club avec Ghost Shark. En septième, En Eau Trouble alias The Meg, qui bénéficie surtout de ses gros moyens. On quitte les bons films pour entrer dans le routinier, mais encore fréquentable au-dessus de la moyenne avec Sharknado 11,5 en huitième place. Les Mâchoires Infernales en neuvième. À égalité avec ses 11 points avec Shark Hunter. Si on regarde les films les plus nuls de notre liste, et je me contenterai des 5 derniers, on va tomber bien bas dans les à fuir avec Mega Shark vs Giant Octopus 3,5, Jurassic Shark 2,5, 90210 Shark Attack 2, Raiders of the Lost Shark 1,5, et enfin Panique sur la côte alias Spring Break Shark Attack à 1. Alors les films que nous avons tirés aujourd'hui sont des prototypes de films de série B des années 2000, Sharkman en 2005 de Michael Oblowitz et Killer Shark alias Swamp Shark de 2011 de Griff First, deux productions sci-fi, et je crains qu'on ne bouleverse pas trop ni vers le haut ni vers le bas le classement avec ces deux films. Mais bon, prêt à jeter à l'eau ?
Docteur King, faire à moi le sujet numéro 8. Le 415 est prêt, docteur. Vous communiquez encore avec King ?
Comme je le disais, le docteur King a laissé quelques composants clés de la formule. Mais s'il s'agit bien de ce que je crois, King a peut-être résolu le mystère des cellules à l'origine du clonage. Et les possibilités sont illimitées.
Nous partons demain, ce qui devrait vous laisser assez de temps.
Saviez-vous que le requin ne succombe jamais des suites d'une maladie ?
Toujours obsédé par les requins.
Je vous offre l'avenir de la race humaine. J'ai créé une perfection d'organisme. Dieu King, cette fois vous êtes fous.
La réunion est terminée.
Vous ne pouvez pas nous garder ici.
Tout le monde s'éloigne de la plaque.
Il voulait que sa créature se reproduise.
Allez-y, fuyez.
Tu descends le premier. Allez.
Mais il n'y a nulle part où se cacher.
Sharkman. Moitié homme, moitié requin, c'est la terreur des fonds marins. Sharkman, Sharkman, tu vas tous les bouffer. Pardon, mais bon, le film m'a mis de bonne humeur. Et puis sincèrement, vous attendiez à quoi de ma part d'un film qui s'appelle Sharkman, un truc du style, c'est le Sharkman. Bon, Plus sérieusement, comme nous l'avons souvent dit ici, au milieu des années 2000, la mode des films de monstres avait bien repris grâce à la chaîne Sci-Fi. Mais après plusieurs pelletées de Shark Attack, d'Octopus, Dark Attack, eh bien on commence à tourner un petit peu à vide. Alors il faut épicer la sauce et relancer la machine. Surtout que ces films se vendent bien en vidéoclub. Alors la chaîne de télé a l'idée de commander à ses principaux sous-traitants une nouvelle série de films. Une série de productions qui vont mixer le concept hybride, en croisant un humain avec les principales bébêtes qui sont à la mode à ce moment-là. On a un homme, on a un monstre connu, ça nous donne un Snake Man, un Mosquito Man, un Predator Man, qui est dans l'espace bien entendu et qui est une sorte de mixte entre Alien et Predator, un Skeleton Man, avec un squelette sur un cheval qui joue les Rambo dans les bois face à Caspar Van Dien et Michael Rooker, un Morph Man, alias Larva, avec déjà William Forsythe et des organismes mutants voraces qui terrorisent une petite bourgade rurale agricole. Six films qui, après leur passage sur Sci-Fi, ressortiront en coffret DVD dans une collection nommée Génération Mutant, pour égaler toute la famille lors des longues soirées d'hiver. Bon, on sent parfois qu'il s'agit de renommer des projets déjà existants pour les faire entrer au forceps dans la collection, mais globalement, ça a bien cartonné en vidéoclub, et ma foi, dans la série B, si ça remporte des pépettes, c'est l'essentiel. Et évidemment, parmi les valeurs sûres, il y a le requin, ce qui nous donne un Sharkman. Non, ça suffit maintenant! Alors donc, ça donne quoi? Eh bien, nous sommes sur une petite île tropicale en Bulgarie. Enfin, c'est censé être une île tropicale, mais c'est filmé en Bulgarie. Enfin bref, nous découvrons les étranges expérimentations biologiques du Dr King, qui a créé un monstre hybride, moitié homme, moitié requin, qu'il tente de faire accoupler avec des touristes de passage dans l'espoir de créer une super race d'hybrides qui vont dominer le monde, profitant pour cela de l'immunité supposée des requins aux maladies. Et comme il faut bien expérimenter ça sur quelqu'un, notre Mengele de Presunik a réalisé son Sharkman à partir de son fils Paul, atteint d'un cancer incurable. N'oubliez pas, c'est pour la science.
Mon patient avait un cancer du rein droit, en stade terminal. Cultiver les nouvelles cellules était une chose facile, mais malheureusement, mon sujet les a rejetées. Peu importe le nombre de cellules injectées, elles furent toutes détruites. C'est alors que l'idée m'est venue. Il fallait que je commence avec des cellules qui étaient préalablement immunisées contre le cancer. Des cellules de requins. J'ai donc croisé des cellules de requins que j'avais cultivées avec des cellules humaines différenciées. Ensuite, une fois la structure moléculaire stabilisée, le cancer est entré dans une phase de complète rémission. En 2 semaines.
Est-ce que vous nous dites que Paul est encore en vie?
S'il est en vie, bah oui. Mais il est bien plus que ça.
Le problème, c'est que ça a un peu atteint le ciboulot de Polo, qui maintenant est à moitié requin, et a parfois du mal à faire la différence entre bouffer et copuler. Et puis de toute façon, les expériences marchent mal, les résultats ne sont jamais viables, et la super race d'hybride, elle est pas prête de voir le jour. Ce qui conduit notre bon Dr King, toujours dans l'intérêt de la science, il ne faut jamais l'oublier, de tenter une approche plus subtile. Ouais. En amenant Amelia, l'ancienne fiancée de Paul, sur son île, ce qui permettrait peut-être de réveiller d'anciens souvenirs enfouis et de permettre plus facilement l'accouplement. Et ça tombe bien. Elle bosse pour une grosse société pharmaceutique qui a en plus eu le toupet de mettre le Dr King à la porte 5 ans plus tôt, prétextant de minables considérations éthiques sur son travail visionnaire. Que voulez-vous, le monde est peuplé de médiocres. Enfin, notre savant en profite pour inviter une délégation de la firme sur son île et livrer tout ce petit monde à son protégé. Autant joindre l'utile à l'agréable. Et voilà bien un film plaisant. Idiot, certes, mais sans prétention et sans trop de temps mort. Après une 20aine de minutes d'exposition, le film prend sa vitesse de croisière pour nous offrir un spectacle efficace et furieusement débile. D'autant que le film ne se concentre pas uniquement sur son monstre, mais comme le Dr King possède une petite armée privée de sbires, s'y rajoute pas mal de scènes d'action avec des poursuites en bagnole, en bateau, en hélicoptère. J'ai d'ailleurs cru reconnaître des stock shots du Dernier des Dragons d'Isaac Florentine en 99, un film avec Dolph Lundgren, à qui il emprunte ses gros hélicoptères blancs. À moins que ce soit des stocks qui restaient sur les lieux de tournage en Bulgarie, puisque New Image, vous le savez, tourne régulièrement aux mêmes endroits. Ce qui fait d'ailleurs que l'île tropicale, eh bien, elle est bien tropicale sur les plans larges, et elle ressemble à un petit sous-bois européen dans les plans rapprochés. Magie du cinéma. Mais bon, on va pas chipoter, ça dépote suffisamment pour qu'on s'ennuie pas. Autre atout, un casting sympa, dominé de la tête et des épaules, sans forcer par Jeffrey Combs, le réanimateur himself, Il tabotine en toute décontraction en savant fou à la Frankenstein qui maltraite ses assistants ou qui se délecte à l'avance de livrer tout son petit monde à sa créature. D'abord, ils avaient qu'à pas douter de son génie.
Paul doit maintenant assurer une descendance viable. La quantité de phéromones dont Paul a besoin pour éveiller son intérêt engendre d'irréparables complications dans la grossesse. En revanche, vous, vous avez eu un immense effet sur lui dans le passé.
Cette chose n'est pas Paul.
Le plus grand de nos sens est sûrement l'odorat. Une infime fragrance, une senteur. Et je me souviens de ma mère, je me la rappelle. Je la revois coupant des fleurs et c'est pour ça que je peux réveiller très probablement en lui le souvenir de vous.
Vous pourriez produire le même résultat dans un labo.
Je peux faire tellement plus ici. Si je sais rapprocher les espèces, je ne maîtrise hélas pas leur procréation. Pour cela, j'ai besoin d'un utérus.
Vous allez me féconder, c'est ça?
Moi, non. Lui le fera.
Le reste du casting est composé d'habitués de vidéoclubs des années 90-2000, dont les jolis Heiter Tylo ou la française Lini Denier. Et c'est surtout William Forsythe qui est le plus rigolo. Il a déjà affronté Steven Seagal dans Justice Sauvage, où il était complètement dément en mafieux cocaïné. Mais là, il est assez impayable en responsable informatique quinquagénaire bedonnant, qui se transforme en quelques secondes en star d'action. C'est-à-dire en mec badass qui flingue du gros bras mitraillette au poing, ou qui affronte le monstre mano à mano, ou qui court devant des explosions de maquettes en CGI absolument hideuses. Vu qu'il fait une mine de 6 pieds de long pendant tout le film, c'est d'autant plus délectable. Mais si le film se transforme un peu parfois en chasse du comte Zaroff, mitraillette au poing, il faut pas oublier quand même le Sharkman. Parce qu'il faut que je vous en parle, le Sharkman. Donc je vous rappelle, l'idée de base, c'est de croiser un homme avec un requin. Mais en plus, quitte à prendre un requin, autant prendre un requin marteau. Ce qui lui donne un look absolument impayable. Il a une tête plate, absolument pas crédible. Et se comporte comme un gros teubé joyeusement débilos pendant tout le film. Un film qui est connu aussi aux États-Unis sous le nom de Hammerhead, Shark Frenzy. Pour l'incarner, on a soit quelques images de synthèse moche, comme on en faisait en 2005, et surtout un mec dans un costume en latex de requin, qui fait graou-graou dans les buissons. Oui, parce que comme il est à moitié humain, il peut aller sur la terre ferme aussi. Michael Oblowitz, le réalisateur, comprend assez rapidement qu'avec son monstre en latex, la crédibilité risque d'en prendre un coup. Donc assez prudemment, il va le montrer de façon très furtive, souvent caché par une partie du décor, soit à coup de gros plans flous, flash agressif. Ce qui n'est pas idiot, parce que son Sharkman, c'est quand même un sacré crayon monster. Et c'est là d'ailleurs qu'il se rappelle qu'il a déjà tourné avec Steven Seagal, dans l'affaire Von Aken ou Ultime Vengeance, et que déjà il avait fallu qu'il trouve des trésors de cadrage pour ne pas montrer que son action star fait 120 kilos. La musique de John Dixon, habitué des compositions à bas prix, est plutôt honnête. Beaucoup de synthé, des percus effets faciles, c'est composé au mètre, mais ça remplit son office avec une certaine efficacité. On a donc là un film généreux, parfait pour une soirée nanar entre amis. Nikita l'avait chroniqué sur Nanarland non sans raison. Je l'avais vu à l'époque de sa sortie, il m'avait déjà fait bien marrer, je l'ai revu pour l'occasion, j'ai vraiment passé un bon moment. Un bon moment nanar, hein, certes. C'est pas un chef du cinéma, je vais pas vous le vendre comme Le Parrain, comme Apocalypse Now ou comme Commando. Mais quand même, si vous voulez voir un bon film de monstre bien rigolo, eh ben, ce Sharkman, c'est une valeur sûre.
Je trouve toujours cela si fascinant. La distance séparant ces deux yeux. Chez le Sphyrna, la distance est plus grande que chez tous les autres requins. La supériorité de leur vision, leurs organes sensoriels, leur capacité à sentir ou à discerner les changements subtils dans la pression et les champs magnétiques, tout ça fait du requin marteau le tueur le plus dangereux qu'il y ait sur Terre. C'est la raison pour laquelle je me demande encore pourquoi toutes ces proies potentielles sont encore en vie.
Alors, quelles sont les compétences coéléographiques de Sharkman? Eh bien, en originalité, c'est en cours d'acquisition. Finalement, l'hybride homme-requin, c'est plutôt frais, plutôt pas mal, et raisonnablement bien exploité. L'histoire, elle, sera plus insuffisamment acquise à partir d'un canevas simple, mais logique. Le film ne prend pas des masses de risques et déroule des péripéties en privilégiant plutôt l'action, davantage que la cohérence ou l'ambiance. Les personnages sont en cours d'acquisition, alors deux mots, Jeffrey Combs, qui est délectable en savant fou. Le reste du casting fait le job, on sent que Willem Forsythe est accablé par ce qu'on lui assure de jouer, mais c'est un pro, il joue son rôle. D'ailleurs, dans le lot, je voudrais saluer particulièrement Vélizar Binev. Alors oui, je commence à connaître les acteurs bulgares qui tournent dans ce genre de production. Et Vélizar, vous l'avez vu dans tous les films de New Image. Il est plutôt rondouillard, les cheveux blancs. Là, il incarne une espèce de Igor aux côtés du savant fou. Et il assure son rôle. Et c'est toujours un plaisir de le revoir, généralement en train de jouer les méchants dans des productions de cet acabit. Je voulais tirer un petit peu mon chapeau à la production bulgare, parce qu'ils font quand même du bon boulot. Ambiance en cours d'acquisition. C'est cheap certes, mais on ne s'ennuie pas et il y a du rythme. Réalisation en cours d'acquisition. Alors c'est propre, mais c'est sans génie. Oblowitz, qui est un réal sud-africain qui s'est beaucoup commis dans la série B, enchaîne ses scènes avec une certaine efficacité. Il arrive à faire des plans plutôt réussis, mais bon, ça reste quand même du tout venant, filmé très vite. Qualité des requins, bah c'est là que c'est insuffisamment acquis. Bah, il a vraiment une gueule pas possible, notre Sharkman, mais le problème, c'est que ce mélange de latex et d'images de synthèse, on ne le voit pas assez. Et je comprends que Michael Oblowitz, il n'ait pas eu envie de trop le montrer aussi, vu la regardise du bonhomme. Mais c'est un petit peu dommage quand on vient pour un film qui s'appelle Sharkman, bah on aimerait bien voir le Sharkman. Alors, ça nous fait un petit total de 10. Moi, j'ai passé vraiment un bon plaisir nanar devant, donc je vais lui rajouter gentiment 1,5 points. Sharkman est certes routinier, mais à 11,5, franchement, il est plaisant. C'est pas un très bon film, mais c'est un nanar généreux. Si vous voulez vous faire un petit film de requin rigolo, qui commence maintenant à être un petit peu vintage, hein, 2005, ça se sent. Eh bien, vous allez passer un bon moment avec des potes et des bières. C'est vraiment le petit nanar sympa, et à 11,5, on est au-dessus de la moyenne, quoi qu'on en dise. C'est recommandable, même si ça reste encore de la série B un peu facile. Et bien après cela, nous allons attaquer un autre film. Allons faire un petit tour dans les bayous.
Why do you expect me to believe that there's a shark floating around this bayou?
This isn't a normal shark. It swims, it kills, and it's out there.
Just give up.
Do whatever you want. I'm going hunting.
For what?
For whatever I saw.
What makes you think you can stop it?
I got deputies all around this bayou. If some kind of shark pops its head up.
Out of the water! Hey!
They can have it.
Alors je vous ai beaucoup parlé de New Image ou de The Asylum, hein, comme les cadors qui écrasent un petit peu le marché de la vidéo pour le film de requin, comme les tauliers un petit peu des vidéoclubs, mais dans l'ombre, il y en a d'autres, des plus discrets, qui livrent leurs produits avec une belle régularité et se sont taillés leur petite place dans le monde du film d'exploitation. Et c'est là que j'aimerais vous toucher deux mots d'Active Entertainment. Une société de Louisiane, dont nous avons déjà parlé dans le 4e épisode du podcast pour l'amusant Ghost Shark. D'ailleurs, ils ont participé à Sharkman. Ils sont associés à la série Creature Feature de chez Sci-Fi. Or sur Sharkman, ils étaient encore un peu coproducteurs. Ils n'étaient pas encore très au point. Dans les années 2010, ils ont véritablement atteint leur vitesse de croisière. Ce sont des professionnels, ils sont installés à Bâton Rouge, et leur slogan, c'est rien moins que « Best film in the world ». Un poil ambitieux, les gars. Pourquoi s'installer en Louisiane ? Eh bien, l'État semble avoir fait des gros efforts de crédit d'impôt et est un peu pionnière pour attirer, depuis les années 90, des compagnies de cinéma. Ce qui fait qu'ils tournent tranquillement à leur rythme, des films très calibrés pour les studios hollywoodiens, horreur, comédie romantique, film de Noël, film pour enfants. Le tout en Louisiane. Les hasards du tirage au sort font qu'on les a pas beaucoup vus malgré le fait que j'ai près d'une demi-douzaine de leurs productions dans ma boîte à requins, dont on va sûrement reparler de bientôt. Et en la matière, leur réalisateur maison, c'est Griff First. un gars élevé dans le sérail, famille d'acteurs, le frère est un musicien de studio spécialisé dans les musiques de films de série B. Et Griff, quand il ne joue pas l'acteur dans Les Sept Mercenaires ou dans Terminator Genesis, hein, généralement dans les troisièmes rôles, eh bien, il tourne des films à la chaîne avec une grosse prédilection pour les films de monstres. Les films particulièrement de bébêtes. Il semble avoir un goût immodéré pour les requins, puisque outre Ghost Shark dont on a déjà parlé et ce Killer Shark alias Storm Shark, on a entre autres un Nightmare Shark, un Trailer Park Shark, qui traînent aussi dans mes cartons. Il aime aussi les crocodiles, hein, Lake Placid 3, les Dents du Bayou. Mais ce n'est pas l'homme d'un seul amour et il n'hésite pas à s'aventurer dans d'autres genres comme Jurassic Commando ou Arachnoid. Un esthète. Et comme j'avais bien aimé son Ghost Shark de 2013, j'avais plutôt en confiance en fournant son Killer Shark dans mon lecteur de DVD. Nous sommes donc quelque part en Louisiane où le shérif local, interprété par cette vieille baderne de Robert Davy, le méchant de Permis de tuer ou l'agent Johnson de Piège de cristal, j'ai donc ce livre à d'étranges trafics en se faisant livrer un camion-citerne dans lequel barbote une étrange créature. Là, lors de l'opération de livraison, la bestiole s'échappe et part faire sa vie dans les marais et se met à boulotter tout ce qui passe, étudiants libidineux, pêcheurs alcooliques, ce qui est d'autant plus dommage que la région s'apprête à célébrer la fête de l'alligator. Ce qui met en péril la taverne locale, tenue à bout de bras par Rachel Broussard, interprétée par Christine Swanson, qui décide de prendre les choses en main. Et devant la disparition en masse de ses clients dans les marais, eh bien, malgré les manigances du shérif qui veut étouffer l'affaire, elle décide de traquer la bête.
Oh non!
Je crois que c'est Jackson! Oh, quelle horreur!
Vous l'avez filé à bouffer aux alligators, c'est ça?
Il n'aurait jamais fait
J'ai
ça!
J'ai même pas revu Jackson après son départ hier. Et puis je suis pas un monstre. Alors dites-moi pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de trouver ce qui s'est vraiment passé, au lieu de rester ici à chercher la petite bête?
Je sais ce qui s'est passé.
Eh bien, je vous écoute, vous avez perdu votre langue?
C'était un requin.
Un quoi?
J'ai entendu du bruit cette nuit, alors je suis sortie et j'ai vu que l'enclos avait coulé. Et puis ensuite, j'ai vu le requin et j'ai tiré et il s'est enfui. Il a dû venir ici manger nos alligators et... J'imagine que Jackson s'est fait attaquer lui aussi.
Elle est bonne. Vous me dites que vous avez vu un requin dans le marais.
Bon bah voilà, tout est là, un requin dans les marais, une galerie personnages stéréotypés, des attaques ponctuelles pas très imaginatives. Killer Shark est un film de série qui, à force de pas prendre de risques et de n'avoir aucune ambition, s'avère finalement assez ennuyeux. C'est pas foncièrement antipathique, c'est juste que des comme ça on en a vu des dizaines et ça n'essaie absolument pas de ressortir du lot. Alors, le requin bénéficie d'un design relativement sympathique, étant présenté comme une espèce de spécimen préhistorique vivant dans les grands fonds, et surtout ramené dans les marais par des trafiquants d'animaux sauvages. Animal vivant dans les grands fonds, mais qui s'adapte à l'eau douce sans trop de problèmes. Je crois que la logique biologique ne va pas être une des grandes préoccupations du film. Ce qui fait que le requin présente pas mal, il est vert, avec un look écailleux, assez inhabituel.
Ce serait comme une espèce d'exosquelette vieux de plus d'un siècle, mais le truc c'est que les requins ne vivent pas aussi longtemps.
Ouais.
Tiens, regarde. Des gens se sont fait attaquer par des requins dans le golfe du Mexique, à une centaine de kilomètres d'ici. L'attaque s'est produite quelques minutes après qu'un biologiste marin a récupéré la sonde. Cette sonde assurait la surveillance des tranchées océaniques, dans des profondeurs encore jamais explorées.
Attends, donc ça veut dire qu'il s'agit du même requin ?
J'en sais rien.
Ça expliquerait pourquoi t'arrives pas à identifier l'espèce et pourquoi il est recouvert de cette carapace.
Oui, seulement tu oublies un détail. La pression au fond de l'océan est tellement forte qu'elle peut réduire une voiture en poussière. Ça veut dire que tout ce qui peut survivre à cette profondeur est...
indestructible.
Ouais.
Alors, à l'image, il y a une espèce de mélange donc de CGI, d'image de synthèse, inégalement convaincante, hein, on est en 2011, notamment pour les scènes où on le voit dans son ensemble, et puis des raccords sur un mannequin animatronique pour les gros plans d'attaque. Mais le problème essentiel avec ce film, c'est qu'ils ont beau avoir un requin préhistorique, deux acteurs professionnels plutôt pas mauvais, être situés dans des marécages, eh ben ils en font rien. Franchement, ce film est très standard, reprend toutes les péripéties déjà vues mille fois. Et l'atmosphère bayou, comme elle a déjà été beaucoup exploitée dans les films de crocodiles, ben, on se retrouve avec une production pas déplaisante, mais pas très passionnante et surtout déjà vue. Seul le final arrive à nous arracher un petit sourire avec un moyen assez rigolo pour se débarrasser du squal. Mais c'est à peu près tout et ça va pas beaucoup plus loin. Alors je pense pas m'éterniser indéfiniment sur ce film qui fait partie un peu du ventre mou du genre n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a quelques points positifs. La musique est assez sympa. Andrew Morgan Smith, le compositeur attitré d'Active Entertainment, livre une composition très classique, avec pas mal de morceaux de rock cajun bien péchus, notamment d'un groupe qui s'appelle The Howdies, ce qui rajoute bien à l'ambiance du film. C'est filmé proprement, on est là avec un travail de professionnel. Il y a pas mal de plans d'ailleurs repiqués directement au dent de la mer, histoire de faire un petit hommage bien appuyé. Mais bon, au final, ça casse pas trois pattes un alligator, parce que franchement, il se passe pas grand-chose, ça discute beaucoup. On sent venir toutes les péripéties bien à l'avance. On est dans du balisé pour sci-fi, très oubliable et très vite oublié.
Vous savez, la préservation de la faune ne fait pas partie de ma juridiction.
Écoutez, vous savez très bien que nous sommes dans des zones navigables fédérales.
On joue à celui qui pisse le plus loin à raison.
Allons, shérif, ne soyez pas grotesque.
Vous me faites bien rire. Tous les ans, on a au moins un ou deux touristes qui se font attaquer par les alligators. C'est terrible, je sais, mais ça n'a rien d'exceptionnel.
Je reviens de la morgue et les marques de morsure indiquent que ces gamins ont été tués par un requin.
Vous pensez que je vais avaler ces foutaises ? J'ai rarement croisé de requin dans le bailli.
Sauf votre respect, shérif, je sais encore faire la différence entre un requin et un alligator.
C'est sûrement un requin vert et rampant qui a failli bouffer mon adjoint ce matin.
Quoi qu'il en soit, j'ai suffisamment de preuves pour appeler le gouverneur, lui demander d'annuler la fête de l'alligator à Whiskey River le temps qu'on tue ce requin.
Non mais et puis quoi encore ? Depuis la marée noire, les gens ont le moral à zéro. Ils attendent cette fête toute l'année. Vous voulez vraiment gâcher le seul événement qui rapporte de l'argent à la ville ?
C'est là-bas que se dirige le requin.
J'ai envoyé mes meilleurs hommes sur le coup, ok ? Vous n'avez rien à craindre. Et si par hasard un requin pointe son nez, eh bien, mes hommes s'en occuperont. Soyez tranquille.
Je vous assure qu'il va leur donner du fil à retordre.
Redites-moi ça. Et après, c'est moi qui suis grotesque.
C'est sérieux.
Bon, alors, les compétences chorégraphiques de Killer Shark, l'originalité, elle est non acquise. Un requin dans les marais, et c'est tout. On pouvait quand même espérer mieux. L'histoire est insuffisamment acquise, alors le final relève un petit peu le niveau, mais à peine, parce que les péripéties, elles s'enchaînent comme on coche les cases sur une checklist. Le requin s'échappe, check. Il commence à tuer ses premières victimes, check. L'héroïne est la seule à l'avoir vue, check. Personne ne veut la croire, check. Les autorités ne veulent pas gâcher la fête du village, check. Etc, etc, etc. Le résultat est une ambiance qui, elle aussi, est insuffisamment acquise, en pilotage automatique. De toute façon, les situations ont déjà été vues, revues, et on suit ça vraiment d'un œil distrait. Les personnages sont insuffisamment acquis, tout le monde a l'air de s'en foutre, à part peut-être Christy Swanson, qui joue assez bien son rôle de femme d'action. Les autres, ils sont aux abonnés absents, particulièrement Robert Davi, qui est en sous-régime. Et pourtant, j'adore cet acteur. Réalisation en cours d'acquisition. Alors, First est relativement compétent. Il filme sans grande personnalité, sans grand génie, mais il fait de la relative belle image. Qualité des requins en cours d'acquisition. Ben, au moins, il est beau et on nous le montre bien. C'est déjà ça. Mais comme finalement, il est un peu petit, il n'est pas si impressionnant que ça. Et puis, il faut avouer qu'à la fin, il se fait un peu avoir comme une grosse merde. Bon, ça fait un total de 7. C'est nul. Puis je vais rien rajouter parce que globalement, je me suis quand même bien ennuyé devant ce film. À force de ne faire que recycler des poncifs et de ne rien chercher de nouveau ou d'attractif, on se retrouve vraiment avec le film de série, idéal pour être diffusé sur Sci-Fi, certes, mais qui sera oublié dans les 5 minutes qui suivent sa vision. Ghost Shark, 2 ans plus tard, sera bien meilleur, et quand je vois la liste de tous les films, dont un Santa Jaws ou un Nightmare Shark que nous a pondu Griffiths pour Active Entertainment, j'espère qu'il n'a fait que s'améliorer avec le temps. On verra ça quand on les tirera. Bon, il est temps de voir ce que va nous réserver notre prochain tirage, alors je reprends ma boîte à requins et je tire. Ah ben tiens, un autre Active Entertainment, Summer Shark Attack, alias Ozark Sharks, 2016, un film de Misty Tolley. Ok, ensuite, Psycho Shark, alias Jaws in Japan, de John Ijiri, le dans de la mer japonais. Il n'a pas bonne réputation, celui-là. Quelques recommandations avant de partir. Un nouveau podcast de mon camarade de Nanarland, Martin Gamara, dans sa collection Micro Stockholm. Il s'agit de C'est qui le plus fort, où s'affrontent deux poids lourds de la pop culture. J'ai participé à la deuxième émission, qui a vu l'affrontement entre Godzilla et Cthulhu, pour savoir lequel des deux ravagerait la Terre en premier, et remporterait la bataille dans un octogone sans règles. Une chaîne cinéphilique de YouTube de très bonne qualité, en anglais, Patrick H. Willems, un Américain qui soigne aussi bien la forme que le fond sur tout un tas de sujets qui vont de Mission Impossible aux Avengers, en y rajoutant une patte presque autorisante à des vidéos très pince-sans-rire. J'aime beaucoup. Voilà, nous nous retrouvons dans 15 jours, et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.